Je vous invite à prier quelques instants avant que nous ouvrions la parole et que nous la méditions ensemble. Seigneur notre Dieu, dans cette période de l'Avent, nous voulons aussi te dire que nous nous attendons à toi pour nous parler. Nous voulons bien sûr nous souvenir de l'attente de ton peuple qui t'a attendu pendant tellement longtemps. Nous voulons aussi, Seigneur, porter nos regards sur ton retour. Et Seigneur, nous voulons te demander tout simplement que tu soutiennes notre espérance, que tu continues de nous garder dans ta main, de nous protéger de tout mal. Et que par ta parole, Seigneur, et par ton Saint-Esprit, tu affermisses notre foi et que tu nous aides, Seigneur, à grandir dans cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Alors Seigneur, nous ouvrons ta parole ce matin en te suppliant que tu nous parles encore par elle. Que tu nous aides à dépasser nos habitudes et à dépasser ce que nous savons déjà pour être encore à l'écoute. Et que ce ne soit pas simplement avec nos oreilles que nous écoutions et avec notre tête, mais que ce soit aussi avec notre cœur. Rends-le perméable, Seigneur, à ta parole et à ton œuvre ce matin, afin que nous puissions repartir les uns et les autres plus riches encore que nous sommes arrivés ce matin et plus forts encore et plus certains et convaincus encore de qui tu es pour nous et de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, amen. J'aimerais vous inviter à faire deux lectures ce matin que je tirerai tous les deux du Nouveau Testament. La première lecture est dans le livre de Luc au chapitre 4. Et à partir du verset 14, où il nous est dit que Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région et il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, cette ville dans laquelle il a grandi, où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, il le rendit au servant et s'assit. Et dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Un deuxième texte que je tirerai de l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Un moment où Jésus est avec ses disciples, à partir du verset 13, il se rendait dans la région de Césarée. Il interrogea ses disciples et leur demandèrent : « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? » Ils répondirent : « Pour certains, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un prophète. » « Et vous, Jésus leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est de mon Père céleste, c'est lui qui te l'a révélé. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu permettras sur la terre aura été permis aux yeux de Dieu. » Lors du premier dimanche de l'Avent, Philippe, Rémi et Jean-Michel nous rappelaient que la période de l'Avent est une période durant laquelle on s'associe à des textes de l'Ancien Testament et aux prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus pour essayer de se remettre un petit peu dans cette position d'attente et d'expectative. Et cela avait d'autant plus de sens que c'était d'abord une préparation pour la célébration de Noël, mais ça avait d'autant plus de sens que nous sommes aujourd'hui aussi dans une période d'attente qui est la période d'attente du retour du Seigneur et de sa deuxième venue. Donc la période de l'Avent a le mérite, dans un sens, de nous faire nous arrêter un tout petit peu sur la soif que nous avons, mais aussi les promesses que le Seigneur nous fait quant à la venue et à la réalisation de son œuvre et de ses prophéties. Mais il y a une petite chose à laquelle il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas assimiler dans un sens l'attente que le peuple juif avait de la première venue de Jésus, avec l'attente que nous vivons de son retour. Ce ne sont pas deux venues identiques. Et nous qui vivons après la première venue de Jésus, nous ne sommes pas dans la même situation que les gens qui attendaient la première venue de Jésus. Et je le dis d'autant plus que peut-être nous vivons dans notre vie spirituelle des moments un petit peu de résignation ou d'attente parce qu'on se dit les choses traînent, je ne vois pas nécessairement beaucoup de choses changer. Oui, je me suis converti, oui, je suis certain de mon salut, mais quelle différence est-ce que la première venue de Jésus fait dans ma vie ? Et je vous demande, lorsque vous arriverez dimanche prochain, jour de Noël, est-ce que vous serez dans une attitude différente ou dans une célébration différente de ce que vous êtes maintenant, dans ces quelques jours qui précèdent Noël ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous célébrez, lorsque vous pensez un petit peu à toute l'attente de l'Ancien Testament, toutes ces belles promesses qui ont été faites et qui ont été réalisées en Christ, est-ce que lorsque vous arriverez dimanche matin, l'attitude de votre cœur changera complètement pour célébrer et louer le fait que le Christ est effectivement venu et que ses promesses sont effectivement accomplies. Et c'est dans un sens l'interpellation du texte de Jésus ici qu'il a lu dans la synagogue. C'est qu'il prend un texte sur lequel s'était cristallisée toute l'attente du peuple d'Israël, ou une partie de l'attente du peuple d'Israël, et il leur dit, ce texte s'est accompli. Vous n'avez plus à attendre. Vous n'avez plus à regarder vers le futur. Parce que je suis moi-même debout devant vous, l'objet et l'aboutissement de la prophétie qui se réalise aujourd'hui. Donc c'est un texte qui a arrêté droit dans leurs bottes tous ses auditeurs, comme nous dit le texte. Ils étaient tous perplexes. Et il y aura d'autres occasions aussi où des gens autour de Jésus se poseront cette question à se dire, mais qui es-tu vraiment ? Quelle différence y a-t-il maintenant que tu es venu ? Et Jean-Baptiste lui-même, à un moment, lorsqu'il aura été arrêté par le roi Hérode, lorsqu'il sera en prison, il a deux de ses disciples qui il leur dit, allez voir Jésus et posez-lui cette question de ma part, es-tu vraiment celui qui doit venir ? Et Jésus répondra avec le même texte du prophète Ésaïe, en disant, regardez ce qui est en train de se passer, rapportez à Jean ce qui est en train de se passer. Et là, un certain nombre d'auditeurs, au moment où ils entendent Jésus, ils ne savent plus trop quoi penser. Parce que Jésus affirme que lui-même a reçu l'onction du Saint-Esprit, que lui-même est la réalisation de toute cette attente. Mais ce n'est pas une fin en soi. Par ce texte, il dit aussi une nouvelle ère a commencé. Et cette nouvelle ère, c'est une ère de libération. C'est une ère d'année du jubilé, où on effaçait toutes les dettes, où on libérait les prisonniers, où les esclaves étaient libérés. Ça revenait tous les 50 ans. Mais lorsque Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », il est aussi en train d'ouvrir une nouvelle ère dans la vie des hommes. dans l'histoire du salut, c'est le début de la libération des hommes. Et là, tous ces auditeurs, en fait, résument parce qu'ils sont très perplexes et ils disent tout simplement, mais attends, toi, Jésus, tu es quand même le fils de Joseph. Je veux dire, on a joué avec toi. On t'a vu naître. Tu as fait les 400 coups avec nous. Tu étais dans la synagogue avec nous. Tu as appris à lire en même temps que nous. Comment est-ce que je peux comprendre aujourd'hui que cette parole se réalise ? Et ce qui est étonnant lorsqu'on s'arrête un tout petit peu pour réfléchir à quels sont les différents types d'excuses qu'on peut trouver pour ne pas entendre la parole du Seigneur, en fait, elles tombent toujours dans les mêmes catégories. Peut-être la première et la plus évidente, c'est tout simplement, on se dit, non, c'est pas comme ça de toute façon que ça devait se passer. Ça ne devait pas se passer que Dieu vienne sauver son peuple en naissant d'une femme dans une étable à l'insu de la plupart des personnes. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Et les Juifs avaient vraiment une autre conception de comment ça devait se passer. Et l'apôtre Pierre lui-même aussi, il dit « Non, Jésus, non, 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 si tu dis que tu dois mourir, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. » Nous, on sait. Et on se forge toutes sortes d'idées et de conceptions et de modèles en se disant « Seigneur, si réellement tu dois être celui qui nous apporte le salut, ça doit se passer comme ça. » Alors certains diront « C'est uniquement quelque chose de spirituel qui se passe dans le cœur des hommes et plus tard, ça se réalisera sur la terre et ça se réalisera dans le monde physique et dans la création. » Et puis il y en a d'autres qui disent « Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ces paroles sont des paroles de libération et donc ce sont des textes qui cautionnent la révolution. » Et un certain nombre de chrétiens ont cautionné la révolution, surtout en Amérique latine, sur la base de textes comme ça, parce qu'il fallait faire émerger la délivrance et le salut des hommes dans l'histoire d'aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est plutôt dans le travail social qu'il faut le faire, aider les gens dans leurs difficultés tout à fait personnelles. Et certainement, toutes ces options ont quelque chose de vrai en elles-mêmes, mais le problème, c'est qu'il y a des moments où tout simplement on les élève en schéma qui doivent absolument se réaliser, et que c'est comme ça que ça se réalisera. Et le problème, c'est que Jésus, il dit, non, ça ne se passe pas tout à fait, toujours. Et il faut être disponible pour être surpris et être à l'écoute de comment le Seigneur opère. Et si on avait un peu plus de temps, on pourrait regarder ce que Jésus cite du prophète Ésaïe ici, et en fait ce qu'il ne cite pas non plus, parce qu'il laisse de côté une partie du passage, indiquant par là que les choses se réaliseront dans des phases successives. Et pas nécessairement tout d'un coup. Et les Juifs autour de lui aussi ne pensaient certainement pas que ça devait se passer comme ça, parce que où était en fait la révolte contre les Romains et la libération d'Israël? Et même jusqu'au moment de l'ascension, certains de ses disciples diront encore, est-ce que c'est à ce moment-là que tu libéreras Israël ou que tu restaureras le royaume d'Israël? Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas à vous de savoir, mais indiquant par là aussi, peut-être vous n'avez pas tout à fait compris ce qui est en train de se passer. Et donc il y a une résistance naturelle de notre part à accepter ce que le Seigneur veut faire. Et j'utilise le mot résistance de façon tout à fait délibérée parce qu'il me semble que même aujourd'hui nous sommes menacés par une forme de résistance nous-mêmes à ce que Dieu peut faire, devrait faire, pourrait faire. Et on le met sur des rails ou dans certaines boîtes. Et on n'est pas prêt à entendre ce qu'il est en train de faire et d'opérer. Combien d'entre nous peuvent être éventuellement troublés par le fait que le Seigneur, en ce moment, se révèle de façon absolument extraordinaire et surnaturelle à des personnes qui n'ont absolument jamais entendu parler de lui, ni lu la Bible, ni rencontré un chrétien. Mais il y a des témoignages absolument extraordinaires aujourd'hui de personnes qui, dans des peuplades reculées, qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre, par des rêves, des songes, le Seigneur se révèle à eux. Une deuxième sorte d'objection à un texte comme celui-là, c'est de dire, mais attends Jésus, comment est-ce que tu peux parler de la sorte lorsque tu regardes autour de toi et tu vois ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que tu peux parler de libération? Comment est-ce que tu peux parler de guérison? Lorsque tu regardes autour de toi, tu vois tous les lépreux qui sont là, tous les aveugles, tu vois l'Empire romain qui nous tient sous un joug absolument extraordinaire, et toi, tu penses pouvoir dire qu'aujourd'hui, le jour de la libération et de la délivrance est arrivé. Mais sois réaliste. Et ces objections aujourd'hui sont encore élevées par un certain nombre de rabbins juifs aujourd'hui. En se disant, mais lorsqu'on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne peut pas croire que le Messie est venu. C'est pour ça qu'il est encore à venir. Et un certain nombre de rabbins ont écrit autour de la Deuxième Guerre mondiale, ou au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en disant, mais il est impossible, au vu des faits de l'histoire, que le Messie soit venu, que l'ère messianique ait été inaugurée. Et nous aussi, aujourd'hui, quelquefois, on se dit, même regardez par rapport à la croissance de l'Église ou l'évangélisation, on se dit, mais avec tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, les musulmans sont presque plus nombreux que les chrétiens n'ont plus le droit de parler, etc. Et tout. On se dit, si un des signes du retour du Seigneur, c'est l'évangélisation du monde, ben, il y en a encore pour un petit moment. Ça nous fait sourire, mais moi je pense quelquefois comme ça. Et je me dis, c'est pas possible, dans un sens, que le Seigneur revienne immédiatement parce qu'il y a un certain nombre de faits, de blocs, de choses qui ne font pas sens. Et il y a cette objection à accepter le fait que cette parole soit devenue réalité. Mais la question que Jésus a posée à ses disciples, et c'est pour ça que j'ai lu ce texte de Matthieu 16, est une question en fait qui nous est adressée encore aujourd'hui, me semble-t-il. C'est qu'il y a un moment ou un autre, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelle que soit la réputation que les uns et les autres donnent à Jésus, nous sommes encore interpellés et la question nous est encore posée aujourd'hui et durant cette période de l'Avent. Qui dit-on que je suis? Et surtout, et vous, qui dites-vous que je suis? Et cette réponse en dit long. Et cette réponse en dit long sur notre foi et sur notre espérance. Et me semble-t-il, il y a des degrés dans cette réponse qu'on peut lui apporter. Et ce n'est pas une question anodine. Et il me semble que répondre simplement « Tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie », ça c'était téméraire et c'était quand même très fort de la part de l'apôtre Pierre. Pour nous, ça ne nous coûte pas grand-chose de le dire. Parce qu'on le sait. Parce qu'on a toujours pensé à Jésus comme étant le Christ et le Sauveur du monde. Ça ne nous coûte rien de dire « Je crois au Seigneur Jésus et il est le Fils de Dieu ». Ça ne nous coûte plus rien. Mais quelle est la réponse que nous apportons à cette question-là? Et je vous mettrai un peu plus au pied du mur, simplement en vous rappelant ce texte que le Seigneur lui-même dit. Je suis venu pour libérer, je suis venu pour guérir, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette parole s'accomplit aujourd'hui, devant vous. Qui souscrit à chacune de ces affirmations en disant « Je vois, je sais qu'aujourd'hui le Seigneur nous a apporté une libération ». Je vois les yeux s'ouvrir. Je vois les prisonniers être libérés. je vois une bonne nouvelle être proclamée. Oui, nous vivons dans une année de grâce, nous vivons dans une année de jubilé. Combien d'entre nous sommes prêts à suivre le Seigneur dans cette affirmation et à dire, moi aujourd'hui, c'est ça que je vis, c'est ça que je vois, c'est de ça que je suis convaincu, et c'est pour ça que je continue de proclamer la parole de Dieu, et c'est pour ça que je continue de suivre mon Seigneur. Moi, j'ai tendance à dire, je suis un spécialiste, moi, de la réalisation multi-étape des prophéties du Seigneur. Alors, je me dis, il a annoncé, oui, parce qu'il est arrivé à un moment, mais bon, ça se déroule maintenant, ça se déroule un petit peu dans les cieux, oui, il y a des gens qui se convertissent, mais tout ça se réalisera à la fin. Donc, je dis, oui, d'accord, mais parce que ça a commencé, mais ce n'est pas tout à fait là. Mais c'est une façon de diluer ce que le Seigneur est en train de nous dire dans cette parole, qu'aujourd'hui même, cette parole se réalise. Et cette parole, en fait, a été interprétée à la fois dans le domaine spirituel, comme elle se doit, mais aussi interprétée comme ayant une application tout à fait concrète dans le monde aujourd'hui. Et il est indéniable que des personnes ont été guéries au nom du Seigneur, que des prisonniers ont été libérés au nom du Seigneur, et que la parole de Dieu a été annoncée comme étant une bonne nouvelle qui a réjoui le cœur de nombreux chrétiens au cours des siècles. C'est absolument indéniable. Mais à quel point aujourd'hui, et c'est la question que je vous pose par rapport à cette période de l'Avent, c'est à quel point est-ce que notre espérance est ancrée sur une parole comme celle-là ? À quel point est-ce que nous aspirons à voir, que ce soit spirituellement ou effectivement, des personnes être libérées, à voir la parole de Dieu être annoncée comme une parole qui réjouit le cœur des hommes, la meilleure nouvelle qui peut être annoncée dans cette période où on a tous peur de perdre notre triple A. Non, et où même moi je ne lis plus les journaux parce que le moral dans les chaussettes. Mais à quel point est-ce que notre espérance est accrochée à ça ? À quel point est-ce que notre espérance, qui devait être marquée par une passion, un désir, une attente, une joie, à quel point est-ce que nous ancrons la venue du Seigneur et le fait qu'il soit venu sur des manifestations et des événements comme cela ? Et je dois dire que c'est un texte qui m'interpelle. Parce que est-ce que moi-même je suis prêt à croire par la foi, mais aussi à espérer et à prier pour que se manifeste la libération des hommes, spirituellement, mais aussi dans la vie de tous les jours et dans la vie terrestre ? Combien de fois est-ce que je me résigne au fait que des gens ne peuvent pas comprendre et je me dis, ben, Seigneur, débrouille-toi avec eux parce que moi, je n'arrive pas à leur faire comprendre. Mais là, je baisse les bras devant quelqu'un qui est aveugle et pourtant, il est dit ici que le Seigneur ouvrirait les yeux des aveugles. Qu'en est-il de notre proclamation de l'Évangile ou de la façon dont nous la vivons ? Est-elle une bonne nouvelle pour les gens ? Combien de personnes plutôt l'aperçoivent comme un nouveau carcan, comme quelque chose qui va encore les empêcher de vivre un petit peu comme ils veulent vivre. Mais où est la libération dans la parole que nous proclamons ? Ça en dit long sur notre espérance. Ça en dit long sur notre foi. Et si Jésus était ici dans notre salle aujourd'hui et qu'il dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Non, mais au-delà des clichés, je suis le sauveur du monde, le Seigneur, le Fils de Dieu, tout ça que vous avez appris à l'instruction biblique. C'est ça qui se réalise dimanche prochain, lorsqu'on célèbre Noël. Et on n'a pas le choix que d'ici à la semaine prochaine, d'ici à dimanche prochain, le temps va passer et on va arriver à ce point où il faudra, si on est sérieux, de se dire... Quelle différence a fait la première venue de Jésus dans ce monde ? Et quelle foi, quelle espérance est-ce que j'ai aujourd'hui par rapport à cette première venue? Et en pensant à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et dans la venue de Jésus, est-ce que nous osons espérer avec la même ardeur qu'eux? Est-ce que nous osons avoir la foi qui s'ancre et qui est bâtie sur ce que le Seigneur a fait lors de sa première venue, mais d'avoir une espérance qui devait être encore plus passionnelle, plus forte, plus puissante que celle de ceux qui nous ont précédés dans la foi, parce que nous savons ce qui s'est déjà passé? À quel point est-ce que nous sommes tirés, comme l'apôtre Paul, quelquefois, moi je me dis l'apôtre Paul, c'est parce qu'il était célibataire, ça devait être quelque part un frustré ou quelqu'un qui avait tellement souffert, il devait se dire vivement que le Seigneur revienne, que je sois avec lui, ma vie est cachée en lui, il devait être quelque part un petit peu psycho quelque chose. Non, ça, non je le dis en rigolant, mais quelquefois je me dis l'apôtre Paul était un peu unique dans ce sens-là. Mais je ne pense pas, quand j'y pense vraiment, je crois que c'est à ça que nous sommes appelés. À quel point est-ce que nous avons soif de la présence du Seigneur dans notre vie? À quel point est-ce que nous avons soif d'être avec le Seigneur, quitte à mourir aujourd'hui? Combien d'entre nous disent que la mort nous est un gain par rapport à la vie que nous menons? Alors bien sûr, c'est facile de le dire lorsqu'on vit les galères aujourd'hui. Donc, quand on vit la galère, on dit, ben, très bien, la mort m'est un gain. Mais pour nous qui ne vivons pas la galère, est-ce que nous avons la même espérance, la même foi, la même passion, la même attente de se dire, j'ai envie de franchir ce pas parce que je préfère être dans la présence du Seigneur que dans la vie que je mène aujourd'hui? Et je ne m'étendrai pas sur tout ce qui touche à l'annonce de la parole de Dieu et de l'Évangile. Je ne m'étendrai pas dessus parce que c'est quelque chose qui m'affecterait beaucoup, parce que je ne suis pas le premier et le plus zélé à vouloir aller annoncer la parole. Pourtant, c'est une parole de libération et une parole qui devrait être une source de joie pour tous ceux qui l'entendent. Et ça m'amène tout ça à mon dernier point, qui est, je voudrais dépasser le fait de simplement vous dire ou de nous dire tout simplement, est-ce qu'on ose espérer, et puis notre espérance n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Ce n'est pas une question de culpabilité. Parce que je pense en fait que nous sommes invités dans le Nouveau Testament par toute notre vie spirituelle, tout le travail, tout l'exercice de notre sanctification à progresser dans ces domaines-là. Nous sommes appelés à progresser dans notre foi et à progresser dans notre espérance. Ce n'est pas comme si ça nous était donné comme ça du jour au lendemain et que c'était fait une fois pour toutes. Mais nous sommes appelés à connaître le Seigneur davantage, à le fréquenter davantage, à relire les Écritures pour comprendre comment elles témoignent du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Et ce que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont vécu, c'est des choses que nous pouvons vivre aussi. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, dans la lecture de sa parole, nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est un témoignage à sa personne, à son œuvre, à son message. Nous avons encore énormément à apprendre de la part des Écritures parce que nous aussi, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Comme les disciples d'Emmaüs, et parce que nous aussi, nous avons des écailles sur nos yeux. Chers amis, l'espérance est quelque chose qui commence avec un désir. On n'a pas d'espérance si on ne désire pas quelque chose. L'espérance continue avec l'attente de la réalisation de quelque chose. Sinon, c'est simplement un souhait. Il n'y a pas espérance si on ne désire pas. Il n'y a pas espérance si on n'attend pas la réalisation. Et le troisième élément de l'espérance, il n'y a pas espérance s'il n'y a pas joie et bonheur. On n'espère pas en des choses malheureuses. Ni même est-ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à espérer dans les choses malheureuses. On ne vous demande pas d'espérer pour les événements de la fin qui seraient troublants. On vous demande d'espérer pour le retour du Seigneur et la réconciliation et être à nouveau réunis à lui. Ainsi donc, si Noël est une période où nous célébrons la réalisation de l'espérance du peuple d'Israël, mais aussi où lorsque nous portons nos regards sur les choses à venir et où nous disons que nous espérons, revisitons notre espérance. À quel point est-ce que nous sommes passionnellement attirés par elle? À quel point est-ce que nous portons nos regards dessus et nous regardons plus vers la réalisation de notre retour ou de notre réconciliation avec le Seigneur que des cadeaux que nous ouvrirons samedi soir ou dimanche matin? Et nous sommes appelés à progresser là-dedans. Il y a suffisamment de textes dans le Nouveau Testament qui nous disent que nous sommes appelés. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. » Chers amis, nous sommes appelés à avoir la foi, c'est-à-dire de pouvoir saisir ce que le Seigneur nous donne déjà maintenant, de pouvoir croire la parole qu'il nous dit. Mais nous sommes aussi appelés à avoir de l'espérance, c'est-à-dire à croire que cette parole va faire une différence, mais aussi à souhaiter que cette différence advienne. Et ce n'est pas une chose facile. Je crois que si Jésus était à nouveau ici et relisait les mêmes paroles et nous disait aujourd'hui en 2011, ces paroles se réalisent, on aurait peut-être les mêmes réactions que certains de ses disciples. On se dirait, d'accord Seigneur, mais tu peux nous montrer un peu comment? Et c'est là où on prie que le Seigneur lui aussi ouvre nos yeux. C'est là où la lecture de notre parole, la méditation, la prière, la discussion les uns avec les autres, les exhortations, servent non pas simplement à nous bourrer le crâne pour mieux connaître notre Bible, mais à nourrir notre foi et notre espérance, puis à la faire grandir, à tirer un petit peu par-ci, à tirer un petit peu par-là, pour que nous soyons des gens comme l'apôtre Paul, d'un zèle et d'une passion pour le Seigneur, qui lui faisait regarder au-delà de la semaine prochaine ou l'année prochaine ou son plan de vie, mais de regarder jusque dans l'éternité et de se dire « c'est là-bas que moi je vise ». C'est sur ce chemin-là que moi je marche. Et s'il y a autre chose qui m'emmène par là plutôt que là-bas, non, je préfère faire mes choix dans ce sens-là. Chers amis, il y a eu un avant et un après la première venue de Jésus. Je sais que vous le savez. Mais moi, je sais que la façon dont je le vis, ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai reporté énormément de choses sur le retour du Seigneur en me disant « c'est trop compliqué le monde dans lequel on vit aujourd'hui ». Ou tout simplement, Seigneur, tu ne devrais pas faire les choses comme ça parce que ça me dérangerait quand même pas mal. Mais le Seigneur, lui, il a renversé les choses. Et il a dit aujourd'hui, c'est l'année du jubilé. Aujourd'hui, c'est l'année de la libération. Et tout ça s'est accompli devant vous aujourd'hui. Chers amis, profitez de votre période de l'Avent jusqu'à dimanche, mais que dimanche puisse jaillir dans votre cœur. Cette assurance que ces choses se sont réalisées, que ce à quoi vous aspirez s'est réalisé. Elles ne se réaliseront pas totalement vers la fin, elles commenceront à se réaliser dès maintenant. Et là, nous sommes appelés à étendre et à bâtir et à fortifier notre espérance afin que nous puissions réellement nous attendre dans la joie et dans la passion à la réalisation de ce que le Seigneur a inauguré. La parole de Dieu est superbe. Beaucoup de choses à nous enseigner. Beaucoup de moments où elle peut nous, où elle nous arrête et elle nous interpelle. Mais ce que je voudrais, c'est que si chacun d'entre nous aujourd'hui pouvait repartir en se disant « Je ne suis pas simplement dans une période d'attente. Je suis aussi dans une période où je saisis à pleine main ce que le Seigneur nous a apporté. Et je vais vivre, moi, dans l'année du jubilé et non plus dans le siècle et le millénaire de l'esclavage. C'est ce que le Seigneur a réalisé lors de sa première venue. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre aussi. Que nous puissions, dans nos lectures, dans nos prières, mais aussi dans la vie de notre Église et dans les exhortations les uns aux autres, nous aider à nous stimuler à aller de l'avant et à dépasser les limites que nous pouvons fixer pour nous-mêmes à ce que le Seigneur, ou ce que nous croyons que le Seigneur a fait, afin de découvrir toujours plus la portée réelle de ce qu'il avait l'intention de dire lorsqu'il a dit qu'il a inauguré cette année du jubilé. Que votre cœur soit rempli de joie dans ces derniers jours, soit encore plus joyeux lors de la célébration de Noël, mais surtout que le Seigneur vous mette à cœur d'étendre et de développer cette espérance, qui est une espérance absolument phénoménale, mais que ça vous lève les yeux au-delà, et comme l'apôtre Paul puisse regarder jusque dans l'éternité, que tout le chemin qui nous sépare d'ici là soit l'objet de votre espérance. Je vous invite à quelques instants de silence, puis je terminerai par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as permis que Luc retienne ces paroles qui sont tellement vivantes pour nous aujourd'hui, mais qui viennent jusqu'aujourd'hui nous interpeller. Seigneur, merci parce que tu as préservé ces paroles et parce que ce matin même, elles peuvent nous parler et nous aider à aller de l'avant avec toi. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon si quelquefois nous avons, comme les Juifs de l'époque, limité la portée de ce que tu faisais. Ou peut-être parce que par la foi, nous n'avons pas pu saisir tout ce que tu voulais faire. Alors Seigneur, je te demande que nous soyons les premiers bénéficiaires de cette parole, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux afin de voir ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions croire et saisir aussi les promesses de libération. Que tu nous aides, Seigneur, à ne pas nous complaire ou nous résigner dans les difficultés que nous vivons ou les chaînes qui nous enserrent, mais que nous puissions chercher, Seigneur, ta libération. Seigneur, notre Dieu, nous voulons marcher à ta suite. Nous ne savons pas où tu nous emmènes. Nous ne savons pas ce que tu nous réserves. Nous ne savons pas, Seigneur, quelle est la splendeur et la grandeur de ce que tu nous révéleras. Mais Seigneur, ce que tu as commencé dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. Et nous ne voulons pas te réduire à simplement une personne qui est venue à un moment, qui a bien parlé. Ou même si tu es notre Seigneur, quelqu'un qui fera toute chose vers la fin. C'est notre Dieu, fais-nous cette grâce et que dans notre Église, nous puissions étendre notre espérance et voir cette année de jubilé se réaliser parmi nous, Seigneur, et autour de nous. Au nom de Jésus, amen.
Merci, John, pour ces interpellations présentes, vivantes. J'aimerais partager avec vous les annonces. Je ne sais pas si vous avez regardé le panneau d'affichage en entrant, mais il s'est vidé, heureusement. On ne s'y retrouvait plus, hein, un petit peu dessus. Alors, j'ai remis un autre panneau, vous verrez quand même. Voilà, nous annoncer juste ce qui se passe cette semaine. Donc on a une réunion de prière jeudi soir. Je crois qu'on a eu beaucoup dans ce qu'on a reçu ce matin, beaucoup aussi de sujets de prière et de se remettre ensemble. Donc on vous invite jeudi à venir vivre cette réunion de prière à 20h30 ici. Et puis dimanche, notre culte de Noël ici. On aura beaucoup de chants et on voudra vraiment célébrer cette première venue du Christ, mais avec cet espoir de son retour bientôt, bien sûr. Et puis j'aimerais avancer d'une semaine après, 31 décembre, dernier jour de l'année. On voudrait vraiment partager ensemble quelque chose pour ceux qui le veulent. On se réunira dans une famille. On n'a pas encore décidé où, mais on verra. Si vous souhaitez recevoir, d'ailleurs, vous êtes tout à fait bienvenus, hein, si vous souhaitez inviter du monde. On va décider cette semaine. En tout cas, il y a un panneau pour vous inscrire, savoir où on va le faire. Si on est 50, ce n'est pas tout le monde qui a un salon pour recevoir 50 personnes. Donc, on verra où on le fera, suivant comme ça sera. Mais on vous dira ça. Donc, inscrivez-vous si vous avez envie de partager en famille un temps le 31 décembre pour passer d'une année civile à l'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de mémoire quand même, qu'il y a 15 jours, ici, on a prié pour Didier. Spécialement. Puis Didier, elle est là ce matin. Alors, si ça, ce n'est pas une réponse aux prières et à notre prière, alors on se réjouit, Didier, il est en pleine forme. Il y a déjà un moment qu'il est rentré, vous ne savez pas, hein, mais il y a déjà quelques jours qu'il est rentré. Il commence à faire un petit peu ce qu'il veut là-bas aussi. On se réjouit vraiment, Didier, on est vraiment super content de te voir en forme. Il m'a dit ce matin, j'ai maigri un petit peu. Ben oui, mais ça va remonter. A bien remonté, tu avais déjà bien remonté avant. On va vraiment reconnaissant de ça. On va continuer vraiment à prier pour toi, Didier. Vraiment, remercier Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. La suite, c'est que Didier doit retourner de nouveau pour peut-être les résultats le 28. Il verra. En tout cas, il y a un retour de nouveau à Lyon chez les médecins. On veut vraiment continuer à te porter de ce côté-là. Voilà, ça c'était pour eux aussi une bonne nouvelle de Noël aussi à partager ici. Et puis, moi, je n'ai pas d'autres nouvelles. Oui, bien sûr, j'allais y venir. Autre nouvelle. Non, je n'ai pas d'autres nouvelles, j'entends, je n'ai pas d'autres nouvelles hyper graves à vous donner, sinon que Freddy, de nouveau, a dû être hospitalisé à l'hôpital de la Tour. Pendant tout un temps, vous savez, il faisait un moment à tout jeun, il repartait, ça se repassait mal, etc. Et là, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé, c'est vrai. Un petit coup de nouveau de faiblesse et Freddy de nouveau est à la Tour, on espère pour quelques jours. Et puis pour retourner de nouveau, pour pouvoir repartir aussi à tout jeun. Priez vraiment pour lui aussi, pour sa santé, et puis qu'il puisse retrouver aussi la paix et un bon équilibre aussi. Voilà. Autre point où... Alors, oui, j'aimerais vous remercier chacun pour son engagement d'hier. Pour moi, c'était une fête super. Je me suis trouvé tout d'un coup avec... j'ai un petit peu vu de loin, là, deux personnes qui étaient un petit peu seules. Puis je suis allé vers elles et puis elles m'ont dit, ben non, on ne connaît personne, nous. Je dis, mais vous n'avez pas été invité par quelqu'un? Non, nous, on ne connaît personne. On a juste reçu un petit papillon. On vous a entendu chanter à la foire artisanale, là. Et puis, il y avait un kiosque, puis donc on est allé voir ce que c'était que ce kiosque, puis on nous a donné une petite invitation, alors on est venu. C'était des gens du village, j'ai causé très longtemps avec eux, des gens, pas du tout des gens qui cherchaient un milieu chrétien, quoi que ce soit, mais qui étaient là, un couple qui sont arrivés il y a une année dans le village, un Suisse marié avec une Canadienne, qui a un accent à déchirer le... Un bel accent canadien, j'espère qu'il n'y a pas de Canadien là. Enfin, un vrai accent canadien. C'était super sympa. Et puis, je suis resté en contact avec eux. Je pense qu'on les reverra aussi. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'ils se sont sentis bien et puis interpellés aussi. Donc, merci à chacun qui s'est investi. Beaucoup de personnes se sont investies. Ça faisait grande fête, hein, pour finir. Ça faisait grand repas. Mais je crois qu'il y avait là une ambiance qui était vraiment chaleureuse, une ambiance d'amour. Et merci en tout cas à chacun qui sont investis. Alors beaucoup, oui, je vais venir Philippe, beaucoup sont pas plus levés ce matin. C'est fatigué, je crois, hein, mais pensez à chacun aussi. Il y a quelques semaines, il y avait parmi les nombreux panneaux d'inscription, il y avait un panneau pour des oranges. Vous souvenez, les oranges sont arrivées. Vous pouvez les récupérer auprès de Monique et François à la sortie et leur payer directement. Je te donnerai la liste, Monique, mais j'ai la liste là. Et puis on fera un pointera après qui ne les a pas eus. Et leur payer directement en euros, ça les arrange. Voilà.
Au camping-car
qui est devant.
Si quelqu'un n'avait pas réservé, ça ne pose pas de problème.
Voilà. Pas d'autres annonces? Alors je vous invite à vous lever. On a lu ce matin ce psaume 91 qui est magnifique. Et il m'a reparlé tout au long du message de John. Le premier verset de ce psaume nous dit... Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas où vous habitez. Mais celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, et la fin du psaume nous dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Que ce soit notre bénédiction ce matin d'habiter, de pouvoir habiter dans la maison du Très-Haut et de pouvoir contempler son salut. Amen et bon dimanche à chacun.